Bonjour à tous. Ce matin, je vous invite à lire dans Marc 4, les versets 1 à 20. Nous sommes en période estivale et une fois n'est pas coutume, avant de lire le texte, je vais vous raconter une histoire du siècle dernier. En 1985, Rachel et moi étions engagés en Côte d'Ivoire au service de la mission biblique en Côte d'Ivoire pour 2 années. C'était à l'époque où, à la place du service armé en caserne pour 1 an en France, on pouvait opter pour un service à l'étranger dit en coopération. Pour que ça fonctionne, il fallait faire une demande auprès des autorités militaires et trouver un projet qui accueille le coopérant. La plupart des candidats partaient pour 2 années scolaires d'enseignement, essentiellement en Afrique francophone, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin, Togo, etc. Jeune marié, depuis le mois de mai, 85, je m'en rappelle. Rachel et moi-même avons atterri au mois de septembre à Abidjan, où nous avons été accueillis par Jean-Daniel Peterschmidt pour nous ramener dans l'ouest du pays à Danané, où il s'occupait d'un projet d'animation rurale au service de l'Union des Églises évangéliques du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Jean-Daniel Peterschmidt, c'est le grand frère de Denis Peterschmidt qui était là il y a 15 jours, enfin, juste pour situer. Au service des plus pauvres. Nous avons essayé de développer l'élevage de volailles de race locale et métissée, ce qui était mon domaine pour 2 années, la plantation d'arbres fruitiers greffés ou sélectionnés avec une production en pépinière à Danané, la culture de jardin maraîcher. J'ai pu enseigner les jeunes filles en formation à Mans avec un exemple de jardin à l'appui, ainsi que les sessions de sensibilisation et de formation dans les villages en matière d'hygiène et de propreté, de protection maternelle infantile et de nutrition. Rachel avait une fonction auprès d'orphelins en situation de handicap, pris en charge et hébergés à la pouponnière de Mans, autre activité de la mission biblique en Côte d'Ivoire. C'était une époque où le monde était en train de changer suite à la décolonisation et la création d'États souverains aux frontières artificiellement tracées. Dans les années 80, les églises ivoiriennes, issues du travail missionnaire des décennies précédentes, s'organisaient et devenaient autonomes, et les églises de la mission biblique en Côte d'Ivoire sont devenues l'Union des Églises évangéliques du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Dans ce pays, les différentes missions évangéliques avaient eu l'intelligence de se répartir les territoires géographiques sans se marcher sur les pieds et sans chercher à détourner les éventuels convertis pour les faire changer de dénomination. Toujours est-il que sur place, nous avions encore des missionnaires engagés à vie ou jusqu'à leur retraite qui avaient du mal à partager avec les nouveaux responsables d'église choisis par les Africains qu'ils avaient néanmoins formés eux-mêmes. Et ceux qui avaient une vision plus moderne et sereine de l'avenir où l'engagement missionnaire des expatriés occidentaux devaient se mettre au service de l'Église africaine. Heureusement, mon patron Jean-Daniel Peterschmidt était pionnier en la matière et par conséquent, nous pouvions nous concentrer sur notre travail d'animation rurale au service des villageois autour de Danané et de Mans. C'était le début d'une mission qui se mettait au service de la population plutôt qu'une mission qui cherchait à exporter sa culture et sa façon de concevoir le monde. Fin de cette page d'histoire. Et quel rapport avec la parabole du semeur annoncée au début? La mission, au même titre que l'église locale, est l'endroit où la parole de Dieu est semée. L'évaluation du travail missionnaire ou du travail de l'Église peut être réalisée lorsque le temps de la récolte est arrivé. Nous voilà bien dans le sujet. Néanmoins, le choix de ce texte a réveillé en moi des souvenirs. En Côte d'Ivoire, notre priorité n'était pas l'enseignement biblique, à proprement parler, mais la mise en pratique au quotidien de cet enseignement. Mais, un jour, à quelques semaines de notre retour en France, une église de village que nous visitions en semaine m'a demandé d'apporter le message au cours du culte du dimanche. Panique à bord. non préparé à ce type d'exercice, mais impossible de me défiler, cela aurait généré beaucoup d'incompréhension de la part des Africains. Alors, pour faire le lien entre notre travail dans l'agriculture et le message du dimanche, la parabole du semeur tombait à pic. C'est Jésus qui donnait une leçon d'agronomie, et plus loin il donne l'explication spirituelle de cette parabole. Je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit, mais ça s'est probablement mieux passé que je ne craignais a priori. Lisons Marc 4, verset 1 à 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Jésus parle et fait une leçon d'agronomie. Semer, faire pousser, récolter, un cycle immuable. Un peu plus loin, en Marc 4, versets 26 à 27, 29, nous lisons également. C'est Jésus qui parle toujours. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il y a quelques semaines, je me suis autorisé un commentaire devant vous sur la création qui a été à la limite de choquer les uns ou les autres. Mais dans ses paroles, Jésus insiste bien sur le fait que la graine est faite pour germer, pour croître et donner du fruit, selon le principe de la perpétuation du monde vivant sur Terre. Multiplication cellulaire, photosynthèse, cycle de l'eau, etc. Jésus fait souvent des enseignements où il se réfère au monde vivant pour bien souligner que dans le fonctionnement de la création, nous pouvons observer des choses naturelles que Dieu a créées et en tirer des leçons spirituelles. Dans le serment sur la montagne, en particulier en Matthieu 6, les versets 25 à 33, Jésus nous parle des oiseaux et des lys. Lisons. Donc Matthieu 6, versets 25 à 33. C'est pourquoi... 26 à 33. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comme croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Revenons à notre semeur. Quatre terrains. Le chemin, la terre en couches fines dans les cailloux, le terrain mal entretenu avec ses ronces et épines, et le terrain plus ou moins fertile avec une production de 30, 60 et même 100 pour 1. Logique et compréhensible. Les graines mangées sur le chemin disparaissent dans l'estomac des oiseaux. Aujourd'hui, en ces jours de moisson, on trouve quelquefois des traînées de graines sur les routes issues de bennes qui débordent ou qui ne sont pas étanches. Ces graines sont perdues et ne produiront ni semences ni farine. Aucun avenir pour une graine qui tombe sur le chemin. Les grains tombés dans la terre, fines et pierreuses, démarrent un cycle végétatif après leur germination. Mais en ne recevant pas en temps et en heure l'eau et les éléments minéraux nécessaires, la plante sèche et dépérit. En y regardant de près, on s'aperçoit qu'avec des aménagements et des soins attentifs, ces plantes auraient néanmoins pu croître. Amener de l'eau en temps et en heure, si celle-ci ne tombe pas du ciel, c'est l'arrosage, c'est l'irrigation, et éventuellement ramasser les cailloux dans les champs et amener des fertilisants organiques pour épaissir la couche de terre végétale. Ce travail permet d'augmenter les chances de maintenir en vie ces jeunes plantes. De nos jours, on arrive même à produire des légumes, tomates, salades sans aucune terre, dans les cultures dites hydroponiques. Mais livrée à elle-même, dans ce terrain difficile, la plante meurt, même si elle pourrait croître, si on se mettait au travail pour l'arroser, la nourrir, elle pourrait être à l'origine d'une récolte. Le terrain, avec les ronces et les épines. Les végétaux sont en concurrence et les plantes dites adventices sont en général plus robustes et prolifiques que celles qui sont semées pour produire des fruits comestibles. Mais là aussi, pour donner une chance à la semence de faire son cycle, un travail en profondeur avec arrachage et élimination des racines permet d'améliorer ce terrain. Nous lisons par exemple dans Jérémie 4, les versets 1 à 4. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en toi et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Toujours à nouveau, il faut travailler la terre pour extraire les racines indésirables. Au jardin, on s'aperçoit que si on coupe la partie aérienne de ces ronces et de ces épines, on ne les voit plus et par conséquent, elles n'étouffent plus les plantes semées. Mais l'année d'après, parce que les racines subsistent en profondeur, elles rejettent avec beaucoup plus de vigueur. Alors, un bon labourage, un bon herçage permet d'extraire ces racines défavorables à une croissance jusqu'à la fructification de notre semence. Le terrain dit fertile, la bonne terre, permet d'envisager une récolte certes variable, 30, 60 ou 100 pour 1, en fonction, là aussi, agronomiquement parlant, de la qualité de la terre, des apports en pluie réguliers et des amendements, voire de la densité des semis. Mettre trop de semences au mètre carré ne permet pas une bonne récolte. En particulier, pour les carottes, il faut éclaircir sévèrement pour que les plantes restantes puissent se développer dans la terre. C'est la même chose pour les semis de riz au Laos, où on peut augmenter le rendement en diminuant le nombre de plants plantés au mètre carré. Là encore, Jésus laisse la porte ouverte pour ceux qui veulent mouiller leur chemise et travailler avec sagesse pour voir une production avec plus ou moins de rendement. En synthèse, cette parabole du semeur, Jésus insiste sur la graine et sur son avenir en fonction du terrain abandonné à lui-même ou travaillé pour donner du fruit. L'explication de la parabole dans les versets 14 à 20, Jésus se focalise sur les terrains. Relisons les versets 14 à 20. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont eux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. La semence, c'est la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus, et les terrains sont les hommes et les femmes qui entendent cette parole. Une fois de plus, Jésus nous rappelle que les humains créés à l'image de Dieu sont libres de choisir d'être réceptifs à l'appel de Dieu pour vivre sur terre selon sa justice et sa paix. La parole citée par Jésus est bien cette parole qui nous dit que Dieu souhaite que les hommes vivent en harmonie entre eux et lui, et lui entre eux, et lui rendent gloire, la gloire qui lui est due, et lui rendent la gloire qui lui est due. Alors, venons-en aux différentes circonstances qui font de nous des terrains impropres à la réception de la parole, à végéter pour disparaître, à se faire étouffer ou à porter du fruit. Le chemin. Jésus évoque Satan qui passe et qui enlève la parole. Pour ceux qui donnent prise aux forces du mal, il est vrai que la parole ne pourra pas germer. Personnellement, comme nous l'avons fait ensemble tout à l'heure, je prie quotidiennement, comme Jésus nous le demande, délivre-nous du mal ou du malin et ne nous soumets pas à la tentation. Les forces du mal existent et ceux qui sont aux prises de ces forces occultes ont renoncé à leur liberté que Dieu offre à chacun. N'approchons pas les forces occultes et Dieu nous promet qu'elles se tiendront à distance de nous. Le terrain pierreux. On voit une prise de position superficielle qui ne résiste pas aux épreuves de la vie. On imagine facilement des conversions lors de meetings d'évangélisation où l'orateur fait chauffer l'enfer pour les non-croyants et finalement vend le salut gratuit par grâce en Jésus-Christ. Pas grand-chose avant, si ce n'est une organisation méticuleuse du show, et rien après, puisque l'événement se renouvellera dans un autre territoire. Nous avons vécu cela en Afrique à l'époque, et cela se perpétue encore aujourd'hui. L'église locale, à qui il faut du temps pour travailler en profondeur, organiser l'enseignement, se former pour être dans la vérité, est court-circuitée. Le terrain pierreux n'ayant pas été travaillé a priori, il n'y a pas de fruit. Le terrain envahi de racines, de ronces et d'épines. Les soucis du siècle aujourd'hui, par exemple, ce qu'on appelle la réalisation de soi-même, voire le seul objectif d'exister dans les réseaux sociaux. En plus de la séduction des richesses, qui permet de se sentir en sécurité matérielle, et l'invasion des autres convoitises du siècle présent, comme par exemple le fait de croire que la science et la progression des connaissances trouvera des solutions à nos angoisses et névroses. Enlever les racines, les ronces et les épines demande beaucoup d'efforts. Le travail est long et fastidieux. Il doit être permanent, sinon les ronces reviennent. Il est des milieux où l'on vend ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, où un homme riche harangue la foule et annonce que si on devient enfant de Dieu par la conversion et l'adhésion aux idées du groupe, Dieu bénira la personne et elle pourra obtenir la belle maison pour vivre, la belle voiture pour épater les voisins et les belles vacances aux Caraïbes dont tout le monde rêve. Vous comprenez tout de suite que ces promesses n'ont aucun fondement biblique, ne serait-ce qu'en s'intéressant quelque peu à la vie de Jésus, le Fils de Dieu venu sur terre. Écoutons ce qu'il dit en Matthieu 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Une partie des ronces et des épines qui empêchent la croissance de la parole provient de toutes ces croyances et peut-être même au contexte socioculturel dans lequel nous vivons. Se détacher du groupe pour affirmer sa liberté de choisir d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes est un acte très difficile à mener à bien. Des personnes sensibles à l'appel de Dieu, devenues chrétiennes, ont quelquefois beaucoup de souffrances à endurer après avoir quitté leur groupe familial et social, païen, athée ou musulman par exemple. Là encore, pour améliorer ce terrain envahi de racines toxiques, l'Église se doit de travailler dans la vérité et pour la justice, y compris dans la répartition des richesses de ce monde et favoriser la paix voulue par Dieu sur la terre à tous les niveaux, famille, voisinage, commune, pays et sur toute la terre. Enfin, la bonne terre. Satan se tient au loin. La terre a été enlevée de ses pierres et enrichie en matière organique. Un labourage profond et répétitif a extrait des racines des mauvaises herbes et nous voilà en terrain favorable à une bonne germination, une bonne croissance. Grâce à l'eau et aux nutriments qui arrivent en temps et en heure, et on a un fruit qui se développe pour récompenser de sa peine celui qui a semé. Chacun de nous est ou peut devenir une bonne terre qui porte du fruit. Rassurez-vous, je ne vous donnerai pas de recettes ni de techniques à mettre en œuvre pour atteindre un rendement maximal. Mais soyez à l'écoute de ce que Jésus nous dit. Soyons au service les uns des autres et non seulement prêts à leur imposer notre façon de voir les choses, y compris dans la perspective de l'éternité, dans la présence de Dieu, pour ceux qui auront pu comprendre le sens du message de la parole de Dieu et de l'enseignement de son Fils Jésus. Pour conclure, reprenons les paroles de Jésus en Matthieu 13, versets 14 et 15. C'est Jésus qui cite le prophète Ésaïe. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Écoutez et voir pour comprendre. Une fois qu'on a compris, la peur d'être obligé de renoncer à notre zone de confort psychologique devient un obstacle pour entrer dans la présence de Dieu. Mais Jésus nous donne la force de surmonter cette peur. Il nous accompagne jour après jour pour nous aider à croître, pour porter du fruit, même si cela nous amène à faire des efforts, des sacrifices et des renoncements, en particulier à certains plaisirs superficiels et éphémères de notre vie sur terre. Une vie au service des autres, comme Jésus l'a montré en exemple, plutôt qu'une vie pour soi-même et sans avenir. Nous aurons toujours des racines à extraire, il faudra se laisser nourrir et abreuver tout au long de notre existence terrestre pour espérer porter du fruit. Mais Dieu mettra, dès aujourd'hui, sa paix dans notre cœur si nous restons à son écoute. Amen.